Un traumatisme destructeur d'enfance, une vie de crime et trois meurtres. C'est l'heure d'un nouveau Murder Wine & Cheese. Les parents de Jackie Hadouche, Djouber et Ahmed, sont algériens. Son père était soldat dans l'armée française durant la guerre d'Algérie et en 1962, il est évacué avec sa famille vers la France. Il atterrit à Beauvais et devient un ouvrier spécialisé à l'usine Lockheed. Si vous pensez que c'est juste l'histoire beaucoup trop ordinaire d'une famille obligée d'abandonner tout ce qu'elle connaît pour s'installer et survivre en terre inconnue, vous vous trompez. En tout cas, c'est loin d'être le seul problème. Ahmed est un homme alcoolique et particulièrement violent, au point où il finit par perdre son travail. Jackie apparaît dans cette excellente situation le 19 février 1964. Il est le troisième de 12 enfants. C'est un enfant intelligent, sensible, instable, agressif, impulsif, intolérant, manipulateur et très impatient. Vous l'avez compris, ce n'est pas exactement un ange. Ce qui explique son placement dans un centre d'éducation surveillée à Méru en 1979. Il ne reste pas tranquillement là-bas. Il s'échappe régulièrement pour rejoindre sa famille, qui est sur le point d'exploser d'une manière particulièrement violente. Son père, désespéré par le divorce demandé par sa femme, se suicide par balle sous les yeux de Jackie. Ce dernier est éclaboussé par le sang de son père, dont le corps tombe près de lui. Ce traumatisme plonge le jeune Jackie plus profondément dans la tourmente, la drogue et la délinquance. En 1981, Jackie passe de la délinquance au crime. Il commet un viol collectif pour lequel il est condamné à 5 ans de prison par la cour d'assises des mineurs. Il dira de cet acte « C'était une partie de jambe en l'air, rien de plus, une partouze qui a tourné au vinaigre ». C'est bien connu que la ligne du consentement, située entre les très clairs oui et non, est très clairement obscure. À peine sorti de prison, il est de nouveau condamné pour une série de violences à main nue, à main armée et vol avec violence. Malgré ce casier déjà bien rempli, il arrive à utiliser son charme et se marie en 1988, ce qui lui permet d'obtenir un aménagement de peine. Son union dure 8 mois, et son à présent ex-femme regrette amèrement cette union. Qui peut honnêtement la blâmer? Lorsque Jackie sort de prison, il reprend sa vie de délinquance. Savait-il déjà à ce moment-là qu'il allait commettre le pire? Le 30 novembre 1992, en début de soirée à Beauvais, Jackie rencontre Gilles Canette dans un ascenseur. Gilles est un professeur divorcé et dépressif de 45 ans. Jackie engage une conversation avec lui et Gilles finit par l'inviter dans son appartement où il continue de faire connaissance. Vers 19h, deux élèves de Gilles viennent lui rendre visite et remarquent que Jackie semble inspecter l'appartement. Ils partent au bout d'une heure, tandis que Jackie reste avec Gilles pour la soirée. Cependant, il n'a pas l'intention de s'éterniser. Il l'empoisonne avec du tertian, un antidépresseur, et l'asphyxie. À minuit, il utilise sa carte bancaire à un distributeur, alors que Gilles retire toujours son argent au guichet. Le 1er septembre, Jackie trouve les deux élèves qui ont rendu visite à Gilles et les menace pour qu'ils gardent le silence sur leur visite. Le 1er décembre, le corps de Gilles est retrouvé nu sur son lit par sa femme de ménage. Les policiers retrouvent une empreinte digitale de Jackie sur une bouteille de sirop de fraise et le soupçonnent immédiatement. Interrogé, il reconnaît être allé chez Gilles, mais pas le 30 novembre. Selon lui, il était en région parisienne avec sa compagne le jour du meurtre. Justement, sa compagne, Chloé, arrive à ce moment-là au commissariat par hasard et confirme l'alibi. Cependant, elle refuse de répondre aux questions des enquêteurs et quitte le commissariat. Dans sa cellule de garde à vue, Jackie fait une tentative de suicide en s'ouvrant les veines avec son briquet et est hospitalisé. À la fin du délai de garde à vue, il est libéré et la justice abandonne les poursuites contre lui par manque de preuves. L'affaire est classée. La famille de Gilles n'entend pas parler de la mise en garde à vue d'Hadouche. Pour eux, c'est un accident, un œdème ou une embolie pulmonaire. Et ainsi, Jackie reprend sa vie de criminel là où il l'avait laissée. En 1993, il est condamné à 6 mois de prison pour vol avec effraction. Fin mai 1995, Jackie fait connaissance avec un groupe d'amis dans un bar de Beauvais. Parmi ses amis, il y a Francine, une directrice pédagogique dans un institut médico-éducatif. Début juin, il se présente chez elle et demande un café, mais elle refuse de le laisser entrer, ce qui est tout à fait son droit puisqu'elle le connaît à peine. Jackie ne se laisse cependant pas chasser si facilement et se met à taper fort sur la porte, jusqu'à ce que Francine cède. Jackie entre et dit qu'il est fatigué après sa garde à l'hôpital de Méru, où il travaille selon lui, et elle lui offre le café qu'il avait demandé. Une fois ce café bu, Francine demande à Jackie de partir, mais celui-ci refuse et se plaint soudainement que Colette, son ancienne compagne, s'est remise avec son ex Frédéric. Fait dont Francine se fout très probablement autant que moi. Malheureusement, Jackie ne fait pas que se plaindre. Il emmène Francine dans la chambre où il la viole avant d'enfin quitter les lieux. Francine, horrifiée, jette les draps et lave à l'eau de Javel les endroits où Jackie a été, mais ça ne suffit pas à le faire disparaître de sa vie. Il la harcèle au téléphone pendant des semaines et fait le guet devant sa porte. Francine n'ose pas porter plainte et finit par plonger dans une dépression. Ces actes dégoûtants n'occupent pas assez Jackie pour l'empêcher de nuire à d'autres personnes. En 1996, il est condamné à 3, 4 et 6 mois de prison pour vol, vol aggravé et contrefaçon. En 1997, il est de nouveau condamné à 2 ans de prison cette fois pour escroquerie et vol aggravé. En 1998, il est condamné à 6 ans de prison pour vol avec violence. Ce cas est particulier car il a essayé d'empoisonner sa victime, qui, heureusement, survit. En juin 2002, Jackie est sorti de prison et est de retour à Beauvais. Il renoue avec Isabelle, une femme qu'il avait rencontrée en 1991. Ils entament une brève relation qui est loin d'être idyllique. Un soir, alors que Jackie est alcoolisé, il frappe Isabelle devant la fille de celle-ci. Le lendemain, il lui téléphone et lui demande de lui apporter ses médicaments pour le cœur en prétendant être à l'article de la mort. Isabelle s'exécute et quand elle arrive chez lui, il la viole. Le même mois, il commet son deuxième meurtre. Le 20 juin 2002, vers 19h, Jackie entre dans le foyer Sona Cotra du quartier Argentine de Beauvais. C'est là que vit Léo Capon, une grand-mère de 73 ans, qui a quitté Amiens pour s'installer plus près de sa fille et de ses petits-enfants. Jackie force la porte de son studio, la bat au point de la défigurer, et l'égorge. Ensuite, il fouille son appartement et vole des objets sans grande valeur, ainsi que des denrées alimentaires. Quand la fille de Léo se rend chez elle, inquiète de ne pas avoir de nouvelles, elle s'étonne de voir la porte déverrouillée. Elle entre et découvre l'appartement retourné, des traces de sang sur le sol et des sacs poubelles pleins d'objets près de l'entrée. Malheureusement, ce ne sont pas les seules choses qu'elle trouve. Elle finit également par trouver sa mère dans la salle de bain, le visage couvert par des cartons. Et c'est le gardien de l'immeuble qui prévient la police. Les enquêteurs arrivent rapidement et découvrent un couteau de chasse. Cependant, aucune trace ADN ou empreinte n'est retrouvée dessus. Les vidéos de surveillance de l'immeuble sont examinées et on y voit un homme au crâne dégarni, entrer tête nue et ressortir avec une casquette couvrant son visage et des sacs pleins dans chaque main. Malheureusement, cet homme ne peut pas être identifié car les images sont de mauvaise qualité. Un ADN masculin finit par être retrouvé dans l'appartement de Léo, mais il n'est pas présent dans le fichier national des empreintes génétiques. Jackie reste donc libre, libre de continuer ses méfaits. Le 4 juillet 2002, à Boulogne-sur-Mer, Jackie entre dans l'appartement de Liliane D, une propriétaire de bar, et la frappe. Il tente de la violer sans succès et finit par partir avec la recette du bar. Le 15 juillet, Jackie se rend dans un bar de Saint-Étienne. Il engage une conversation avec un autre client et prétend être informaticien. Cependant, peu après, il dit au barman qu'il est kinésithérapeute. Et alors qu'il sirote sûrement son verre, Jackie engage une conversation avec Sylvain Rome, un caméraman de 32 ans, décontracté et sans histoire. Sylvain parle de ses projets professionnels à Jackie, qui lui dit avoir des contacts qui pourraient l'aider. Les deux hommes quittent le bar ensemble vers 16h. Sylvain achète des boissons dans un magasin près de son domicile, où il emmène ensuite Jackie. Environ une heure plus tard, David, un ami de Sylvain, sonne à la porte, mais Sylvain lui fait comprendre qu'il le dérange et refuse de laisser entrer. David s'en va, et Jackie passe à l'étape suivante de son plan. Il empoisonne Sylvain avec du bromazépam, un tranquillisant, et le poignarde. Il nettoie ensuite l'appartement avant de partir avec le chéquier, le téléphone portable, les papiers d'identité et les clés de Sylvain. Son corps est découvert le 27 juillet par son père. Il est rapidement établi que Sylvain ne consommait aucun tranquillisant, alors la piste de l'empoisonnement est examinée. Un portrait robot est réalisé grâce aux descriptions du barman et du client du bar où Jackie a rencontré Sylvain. Les enquêteurs s'intéressent également au championnat que Sylvain a filmé, car ils pensent que si son meurtrier était vraiment kinésithérapeute comme il l'a dit au barman, il a peut-être été présent dans le personnel. Néanmoins, personne au sein des clubs participants ou des médecins présents ne reconnaît la personne sur le portrait robot. Enfin, les relevés téléphoniques de la zone sont examinés, en vain. Encore une fois, Jackie reste libre. Fin août, de retour à Beauvais, Jackie séduit une femme nommée Nathalie en se faisant passer pour un médecin de l'hôpital local. Elle accepte de l'héberger, et au bout d'une semaine, alors qu'ils boivent un apéritif, Jackie la drogue. Elle fait un malaise et finit à l'hôpital, tandis que Jackie s'en va avec sa carte bancaire et son RMI. Le mois suivant, Jackie reprend contact avec Francine, qui décide alors de porter plainte pour le viol de 1995. Le 13 septembre, dans le quartier Argentine de Beauvais, Liliane Michaud, 82 ans, rentre tranquillement du supermarché avec son déambulateur. Alors qu'elle arrive devant son pavillon, Jackie apparaît, l'agresse violemment et lui vole son portefeuille. La police est appelée et Liliane arrive à décrire l'agresseur aux policiers. Quand les enquêteurs décrivent l'agresseur aux agents de sécurité du supermarché, ils identifient immédiatement Jackie, qui est connue dans le quartier pour son long casier judiciaire. Les enquêteurs se mettent à sa recherche, mais n'ont pas son adresse. Ils le cherchent dans la rue et finissent par le trouver et le suivre. Ils obtiennent ainsi son adresse. Le 30 septembre, une convocation est déposée chez lui, mais Jackie ne se rend pas à cette convocation. Il a pris la fuite. Le 2 octobre, peu après 23h à Nîmes, Jackie tente de s'introduire dans la gare en cassant une vitre, mais est repéré par un vigile qui le fait fuir. La police est alertée et se met à la recherche de Jackie, qui est rapidement repéré. Il est ivre et résiste à son arrestation. Il déclare néanmoins être un kinésithérapeute nommé Saïd. Ce mensonge ne l'aide pas beaucoup. Les policiers découvrent sa véritable identité en passant ses empreintes au fichier des empreintes génétiques. Ils découvrent également grâce au fichier des personnes recherchées qu'il est recherché à Beauvais. Il est immédiatement ramené là-bas. À Beauvais, son appartement est perquisitionné et des objets appartenant à Léo Capon y sont retrouvés. Jackie accuse alors son voisin. Ce dernier déclarera qu'il soupçonne Jackie d'avoir pénétré dans son appartement le 20 juin, jour du meurtre, et qu'il l'a vu revenir le soir en état d'ébriété, avec une trace de sang dans le dos de son imperméable. Le 3 décembre, Jackie est mise en examen pour le meurtre de Léo, mais continue de nier sa culpabilité. Jackie est condamné peu après par le tribunal correctionnel de Beauvais à 8 ans de prison pour l'agression de Liliane Michaud. L'instruction avance, et les enquêteurs découvrent que Jackie était un suspect dans le meurtre de Gilles Canette. En 2003, Chloé, sa compagne de l'époque, avoue qu'elle a menti lorsqu'elle a confirmé l'alibi de Jackie lors du meurtre de Gilles Canette. En réalité, elle ne connaissait pas Jackie en décembre 1992, elle ne l'a connu que lorsqu'elle a été scolarisée à Beauvais. Jackie est alors mise en examen pour vol avec violence ayant entraîné la mort. Le 31 octobre 2006, Jackie écrit une lettre à la juge d'instruction. Dans cette lettre, il accuse les deux jeunes qui avaient rendu visite à Gilles le soir de son meurtre. Ces deux jeunes racontent ce qui s'est réellement passé. Pendant ce temps, les enquêteurs découvrent toutes les autres affaires dans lesquelles Jackie est impliquée. La juge d'instruction décide donc de diffuser une circulaire d'information dans toute la France contenant le signalement d'Adouche pour savoir s'il y a d'autres cas à examiner. Les enquêteurs de Saint-Étienne obtiennent enfin une piste concernant le meurtre de Sylvain Rome. Ils se renseignent sur Adouche et réexaminent les relevés téléphoniques de la zone où vivait Sylvain au moment de son meurtre, où ils trouvent le nom Adouche. Jackie est transféré à Saint-Étienne et un tapissage est organisé où les témoins du bar le reconnaissent. Il est alors placé en garde à vue. Il explique à ce moment-là être venu à Saint-Étienne pour voir de la famille, mais nie avoir rencontré Sylvain. Il est malgré tout mis en examen. Plus tard dans l'instruction, il reconnaît avoir rencontré Sylvain, mais assure qu'il n'est jamais allé chez lui. En ce qui concerne Francine, qu'il a violée en 1995, Jackie reconnaît l'avoir rencontrée, mais nie être allée chez elle. Selon lui, elle l'accuse car il ne lui a pas livré des stupéfiants qu'elle avait commandés. Le 26 mars 2007, le procès pour le meurtre de Sylvain Rome débute à la cour d'assises de Saint-Étienne. Pendant ce procès, Jackie nie tout. Il est sous anxiolytique et est donc assez absent. Il est finalement condamné à 30 ans de prison avec une peine de sûreté de 20 ans. Jackie fait appel, mais finit par y renoncer. En fin d'année 2007, les procès pour les meurtres de Gilles et Léo et pour le viol de Francine est reporté car les avocats de Jackie ont protesté contre le choix de Senlis comme pôle d'instruction. De plus, le barreau de Beauvais est en grève. Le procès commence finalement au printemps 2008. Jackie nie tout et n'apporte aucune réponse aux familles des victimes. Concernant Léo Capon, il dit avoir trouvé la retraitée morte lorsqu'il s'est introduit dans son appartement. Il dit « J'ai peut-être commis un vol, mais je ne l'ai pas tué. » La fille de Léo témoigne « Cette plaie béante que ma mère a dans son cou, mes enfants et moi nous l'avons dans le cœur. Pour moi, ça ne s'arrêtera pas de saigner avant longtemps. » Jackie n'est pas émue par cette déclaration. Selon les experts, Jackie est un psychopathe froid et égocentrique, calculateur et mégalomane, animé par une volonté de toute puissance. Il est condamné à la perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans, assortie de 20 ans de suivi socio-judiciaire avec obligation de soins. Il fait appel, mais sa peine est confirmée en mars 2009. Il se pourvoit en cassation, mais son pourvoi est rejeté. C'est la fin de Jackie Adouche, de bien des manières. Le 23 octobre 2010, il meurt d'une hémorragie cérébrale à la prison de Fresnes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire. Si vous êtes sur Spotify, il y a un espace commentaire en dessous de la page de l'épisode. Vous cliquez sur le titre de l'épisode et vous descendez un peu. Et sinon, vous pouvez me faire vos commentaires sur Twitter, @mwacpod. Et vous pouvez me suivre sur Instagram, @mwacblog. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je sais pas quand est-ce que vous m'écoutez, et je vous retrouve au prochain épisode.